Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h, une émission préparée par Céline Leclerc, Mélanie Chalandon, Fanny Richer, Nicolas Ignatieff, réalisée par Alexandra Malka, à la prise de son Juliette Delperrou. Nadia, Carole et Jérôme sont en classe de 4e. Avec leurs professeurs de mathématiques, de physique, chimie et d'histoire, ils mènent un projet sur la machine à vapeur, créer un magazine consacré à cette invention. Du cours d'histoire, ils utilisent leurs connaissances sur la révolution industrielle. Du cours de physique, le chapitre sur la pression d'un gaz. Quant aux professeurs de mathématiques, ils leur demandent de prouver qu'il s'agissait réellement d'une révolution en calculant à partir de la vitesse d'un cheval et des premiers trains le temps gagné pour rejoindre les villes de Lyon, Marseille, Orléans et Nantes depuis Paris. Voici ce que l'on peut lire ce jeudi sur le site du ministère de l'Éducation nationale au lendemain de la présentation au Conseil des ministres de la réforme du collège, première réforme portée par Najat Vallaud-Belkacem. Cet exemple sert à illustrer une des principales innovations du texte, la mise en place d'enseignements pratiques interdisciplinaires, les EPI. L'idée, c'est de faire travailler ensemble des enseignants sur des projets transversaux pour, je cite, permettre aux élèves de sortir de l'abstraction d'un certain nombre de disciplines. À partir de la rentrée 2016, chaque établissement pourra disposer de 20% du temps d'enseignement total pour mener de tels projets. Le collège unique n'est pas remis en cause, mais le gain d'autonomie est censé en corriger les défauts. Reste à convaincre les enseignants de jouer le jeu de l'interdisciplinarité, autrement dit, d'accepter une remise en cause de leur statut pour un résultat en termes de réussite scolaire que certains contestent. Alors, réforme du collège, Molière et Pythagore sauront-ils travailler ensemble? C'est notre sujet du jour. Ils seront trois ce soir pour en discuter, à commencer par vous, Fatima Ramoun, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de physique-chimie, vous avez fait partie pendant quelques années des enseignants volontaires pour participer à la démarche pédagogique de l'EIST, Enseignement Intégré de Sciences et Technologies, qui est expérimenté depuis 2006, qui vous a conduit à enseigner la physique, la chimie, les SVT et la technologie en classe de 6e et de 5e dans un établissement parisien. Là, vous avez fait une petite pause, mais l'idée, si j'ai bien compris, c'est de revenir à cette forme d'enseignement. Pour discuter avec vous ce soir, Roland Hubert, bonsoir.
Bonsoir.
Co-secrétaire général du SNES-FSU, qui est le syndicat majoritaire chez les enseignants de collège et de lycée. Le SNES qui a publié un communiqué hier suite à la révélation du projet de loi de Najat Vallaud-Belkacem, communiqué intitulé « Réforme du collège, un grand bond vers le passé ». Notre troisième invité, Céline Valkoviak, bonsoir.
Bonsoir.
Professeure de français au collège de Los-en-Goël, dans le Pas-de-Calais. Vous intervenez par ailleurs dans d'autres établissements, notamment pour une aide à la mise en place de l'interdisciplinarité. Ce n'est pas le seul sujet sur lequel vous intervenez, mais enfin ça en fait partie. Vous avez co-signé avec Francis Blancard en 2013 aux éditions ESF « Réussir l'école du socle en faisant dialoguer et coopérer les disciplines ». Et par ailleurs, vous avez dirigé un numéro des cahiers pédagogiques à paraître au mois de mai prochain à la croisée des disciplines. Alors ce soir, on va donc parler d'interdisciplinarité, essayer de voir en quoi ça peut être un bénéfice ou pas pour les élèves et en comment les enseignants voient arriver cette... Je ne pense pas qu'on puisse parler de révolution, mais en tout cas cette évolution, puisque l'interdisciplinarité, c'est peut-être quelque chose d'un petit peu connu. Pour ceux à qui ça ne dirait rien, le mieux, c'est peut-être de partir d'un exemple concret. Je vous propose d'écouter ce reportage réalisé il y a quelques jours de cela au collège Bienvenue Martin à Auxerre, qui est un établissement classé en REP. Les REP sont les réseaux d'éducation prioritaire. Dans ce collège, on a mis en place un travail en groupe, 8 à 10 élèves, sur des projets qui se veulent plus ludiques. C'est un reportage de Delphine Martin.
Épuisette, c'est bon, sparadrap et alpaga.
Dans cette classe, on s'amuse avec les mots.
Votre objectif à chacun, c'est de les placer dans la bonne page, à la bonne page dans le dictionnaire.
C'est parti. Juliette Chalaffre est professeure de français.
Le groupe là, il est hétérogène. C'est aussi ce qui me permet de faire en sorte que les élèves les plus en difficulté soient aidés par des élèves qui ont moins de mal. Puis on arrive plus facilement à leur tirer un sourire.
Dans la salle d'à côté, on prépare un jeu de plateau type Trivial Poursuite. Une activité qui mélange le français, l'histoire, la culture générale. Les enseignants sont donc amenés à dépasser leur matière. Et pour Sophie Buisson, professeure d'art plastique, ça fonctionne.
Au départ, il a fallu travailler sur comment on pose une question.
question. On lui disait, c'est quoi cette prof d'art plastique qui nous oblige à faire du français? Et puis finalement, ils s'aperçoivent que ça fonctionne très bien, ils rentrent dans le jeu et c'est là que ça devient agréable.
Inès et Alexandre ont même l'impression d'apprendre sans s'en apercevoir.
C'est mieux de travailler comme ça parce que déjà il y a moins de monde et on ne sent pas les efforts qu'on fait.
Les cours habituels, on a un cahier, on a des leçons à apprendre. Que là, ça peut être un peu comme un petit jeu, mais c'est quand même du travail de chercher.
Dans ce collège, l'accompagnement personnalisé est aussi proposé aux élèves de 4e à raison d'une heure par semaine.
Voilà, donc reportage de Delphine Martin. Alors on voit qu'on a des enseignants dans le studio ce soir parce que tous les trois invités ont pris des notes pendant ce reportage. Céline Valkoviak, ce qu'on vient d'entendre, est-ce que c'est un bon exemple de ce qu'est l'interdisciplinarité?
Oui, je pense que ça peut être un exemple. Là, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est de relier des compétences de lecture ou de français avec des productions d'art plastique. Et moi, je pense que derrière, on voit à un moment, ils fabriquent un Trivial Poursuite ou un jeu comme ça. Tout à l'heure, vous avez prononcé aussi le mot ludique. Je crois que je me méfie toujours un petit peu de ce mot-là, moi, parce que derrière le mot ludique, il ne faudrait pas perdre de vue que les élèves apprennent et qu'il y a quand même une grande finesse des savoirs à travers un jeu. Je sais que ça m'est déjà arrivé l'année dernière de faire construire un jeu de loi à des CM2 et des 6e à partir du Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne et de me rendre compte que ça demande une grande finesse, des compétences très fines de lecture qu'un questionnement fermé traditionnel comme on peut le faire en français ne montrerait pas forcément.
Donc qui dit interdisciplinarité ne dit pas forcément approche plus ludique?
Qu'est-ce que ça veut dire plus ludique? Que l'élève prend du plaisir à apprendre? Dans ce cas-là, oui, mais pour moi, ce n'est pas forcément la définition de ludique.
Ouais, parce que manifestement, l'élève ne prend pas du plaisir à apprendre. En ce cas, dans les mots de Najat Vallaud-Belkacem, quand elle décrit ce qu'est le collège aujourd'hui, elle explique notamment que les élèves s'ennuient au collège. Roland Hubert, par rapport à ce que vous venez d'entendre, est-ce que c'est déjà quelque chose qui vous surprend? Ou bien est-ce que cette pratique, finalement, de croiser des disciplines et d'avoir des enseignants qui n'enseignent pas la même discipline et qui se groupe sur des projets communs, ça n'est pas finalement quelque chose qui existe, donc pas depuis la nuit des temps, mais enfin au moins depuis le début du collège unique.
J'ai un peu de mal à imaginer qu'un enseignant aujourd'hui, quand il a une maîtrise de sa discipline, reste forcément enfermé sur les savoirs qui sont inscrits dans les programmes. On est forcément...
Il doit bien y en avoir qui restent enfermés.
Il y en a quelques-uns, mais je dirais, pour parodier quelqu'un de célèbre, c'est pas la loi du genre. Voilà. Alors après, toute la question est de savoir comment on fait. Est-ce que l'interdisciplinarité, c'est la recette magique ou est-ce que c'est un outil important, précieux, qui doit être mis en œuvre, sous certaines conditions? Est-ce que c'est valable tout le temps, avec toutes les disciplines et tous les croisements possibles? Et comment on le fait? Moi, ce que j'ai noté, c'est comme ma collègue là-bas, tout à l'heure, là, c'est le ludique sous la forme du plaisir, c'est-à-dire l'envie d'apprendre, d'y trouver sens, quoi. C'est-à-dire, et donc, du coup, j'ai l'impression d'apprendre sans m'en apercevoir. Ça passe par des tas de modalités différentes pédagogiques. Moi, je suis enseignant de maths, j'ai toujours du mal à ne pas essayer de remettre ce qui est enseigné et ce qu'ils doivent acquérir dans une perspective historique ou en rapport avec l'histoire de la pensée, parce que sinon ça n'a pas de sens. Chevalard disait, on peut pas enseigner les mathématiques comme on visite un musée, en prenant les notions les unes après les autres, et en les observant, en les rangeant dans sa boîte, et puis après on passe à une autre. Donc si le sens de la réforme, c'est développer ces pratiques qui permettent ça, oui.
Pour rester sur la question de ce qu'est l'interdisciplinarité, Fatima Ramoun, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un outil pédagogique parmi d'autres? Ou bien est-ce que, pour vous, c'est quelque chose qui doit être peut-être davantage développé pour aller vers un enseignement qui soit véritablement interdisciplinaire?
Je pense que c'est un outil, effectivement. C'est un outil et je pense que, comme tout outil, il faut que les professeurs qui s'en emparent en soient convaincus. C'est-à-dire que je pense que généraliser, ce n'est jamais la solution. Je pense qu'effectivement, je pense qu'on peut faire de l'interdisciplinaire avec on peut croiser n'importe quelle discipline. Encore faut-il que les professeurs aient envie et que les projets viennent d'eux. Ou viennent peut-être des élèves, peut-être qu'on peut proposer des élèves avec les conseils de collège, peuvent peut-être proposer à ce moment-là un projet et on le met en œuvre dans l'année ou l'année suivante.
À condition quand même que ça rentre dans un cadre. D'ailleurs, il y a un cadre qui est prédéfini, en tout cas des grandes thématiques qui sont prédéfinies. Cela dit, elles sont peut-être suffisamment larges pour émettre énormément de choses, mais il y aura le développement durable, il y aura le monde économique et professionnel, alors là c'est très très large, les langues et cultures de l'Antiquité. Fatima Hamoun.
Mais je pense que les programmes actuels permettent déjà de l'interdisciplinaire, mais moi je suis toujours un peu gênée par le fait qu'on est obligé de faire toujours en plus. Moi personnellement, j'ai toujours fait à la place, c'est-à-dire que les projets que j'ai menés dans mon cours ou en collaboration avec des collègues d'autres disciplines, ça a toujours été aussi exigeant qu'un cours classique et surtout en partant sur les programmes. On a la chance sur certains niveaux de classe, par exemple, je vais parler de ce que je connais. En SVT et en physique-chimie, sur le programme de 5e, on a la thématique de l'eau qui est ancrée dans le programme, dans le programme officiel. Et c'est l'occasion de travailler ensemble sur ces thématiques. Et
j'ai alors, avec dire qui, par exemple, sur la thématique de l'eau, vous qui êtes donc prof de physique, vous travaillez avec qui
Le prof de SVT, par exemple, c'est sur son niveau de 5e. Le prof de SVT doit travailler sur le paysage, sur l'eau facteur d'érosion en géologie externe, excusez-moi. Le professeur de physique-chimie, lui, il doit travailler sur l'eau solvant et sur les mélanges. Et donc, il suffit de prendre les programmes quand ils ont été construits en cohérence et de travailler directement. On n'est pas obligé de faire en plus. On peut faire vraiment à partir de ces programmes. Alors effectivement, tous les niveaux et tous les programmes ne le permettent pas forcément. Je vais toujours parler.
Et toutes les disciplines. D'ailleurs, c'est la question que je voulais poser aussi à Céline Valkovia. Qu'est-ce qu'on peut mixer toutes les disciplines? Est-ce qu'il y a des interdits? Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, que la physique, chimie et l'éducation sportive puissent faire l'objet d'un projet commun, peut-être en ayant un petit peu d'imagination. Mais est-ce qu'en tout cas, dans le travail que vous faites et dans les observations que vous faites, est-ce que vous avez déjà constaté ce genre d'assemblage, peut-être pas évident à la base?
Ce qui est sûr, alors nous, je suis dans un établissement qui a des cours interdisciplinaires depuis un certain nombre d'années dans l'emploi du temps de certaines classes, et donc on a testé beaucoup de choses. Alors physique EPS, là j'ai pas d'exemple en tête, mais on a déjà fait technologie EPS, SVT EPS, ça se fait souvent, et il y a eu beaucoup de choses. Ce qui me semble évident, moi, ce que j'ai remarqué en travaillant avec mes collègues, c'est que les enseignants ne rentrent dans les projet interdisciplinaire que si ils y reconnaissent pleinement leur propre discipline. C'est-à-dire qu'il faut que le projet interdisciplinaire, on peut certainement pas faire n'importe quoi en interdisciplinarité, et d'ailleurs je pense qu'il y a des fausses interdisciplinarités.
Oui, tout à fait, oui.
Et il y a vraiment une didactique des disciplines à interroger, et c'est quelque chose de très sérieux en fait, je pense, l'interdisciplinarité, et de relativement complexe.
Roland Hubert.
Oui, ça, je vous rejoins tout à fait. D'ailleurs, l'exemple qui a été donné par le ministère que vous avez donné tout à l'heure, là.
Qui est sur le site, du ministère.
Qui est sur le site, là, je l'avais repéré. Pour les mathématiques, c'est un peu décevant par rapport aux autres disciplines. C'est-à-dire que souvent, quand vous dites les difficultés, c'est que souvent, pour une discipline comme les mathématiques, on n'a pas l'impression de rentrer tout de suite, que les mathématiques se mêlent de façon naturelle, de cette façon-là. Et souvent, uniquement utilisé comme un outil, quoi. C'est-à-dire que faire tout ce travail interdisciplinaire pour constater qu'on va plus vite en train qu'à cheval, une fois qu'on a les vitesses, c'est parfaitement évident, quoi. Donc, cela dit, c'est vrai, je rejoins ce que vous dites, hein, il faut absolument que les programmes le permettent. Mais parce qu'il y a des objets, on appelle ça des objets de savoir, mais peu importe, qui se prêtent de façon plus ou moins facilement à ce regard croisé de discipline sur ces objets. Donc nous, ce qu'on a demandé, c'est que le CSP, dans la construction des programmes...
Donc, le CSP, c'est le Conseil supérieur des programmes
qui est chargé...
Avec les nouveaux programmes d'ailleurs qui doivent rentrer en vigueur en même temps que cette réforme du collège, c'est-à-dire à la rentrée 2016.
Qui seront en consultation dans les semaines qui viennent et qui seront conçus beaucoup plus par cycle que par année et de façon un peu plus cohérente entre les différentes disciplines. On a demandé que justement les repères soient donnés aux enseignants pour voir comment ils peuvent construire ces regards croisés de disciplines. Et ça me paraît être quelque chose de très important, parce que si l'interdisciplinarité a parfois du mal à s'installer, c'est ce que vous dites, c'est que les collègues ont parfois du mal à y voir comment l'essence de leur discipline, la nature de leur discipline s'y retrouve.
Alors on va revenir justement sur ces éventuels blocages par rapport à l'interdisciplinarité de la part du corps enseignant, mais il faut évidemment d'abord s'intéresser à ceux à qui s'adresse la pédagogie, c'est-à-dire, ce sont d'abord les élèves. L'idée, alors, qui semble-t-il sous-tend cette réforme du collège, est la mise en place, alors, non pas la mise en place de l'interdisciplinarité, mais on va dire peut-être la généralisation et la place plus grande possible laissée à cette façon d'enseigner, c'est de dire c'est un outil de lutte contre l'échec scolaire, ou en tout cas, c'est peut-être une façon de pallier les défauts du collège unique qui, sous couvert justement d'enseignement un peu universel, laisse un certain nombre d'élèves de côté. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Fatima Ramoun et Céline Valkoviak, que l'interdisciplinarité a fait ses preuves du point de vue de la réussite scolaire, Fatima Ramoun?
Je vais parler de mon quotidien. Sur un projet interdisciplinaire qu'on avait appelé le projet Mars à l'époque, on travaillait on a eu la chance de travailler avec deux astrophysiciens du CEA, Roland Lehoucq et Jean-Marc Bonnebido, deux classes de cinquième. Donc c'était un projet scientifique, mais bien évidemment au sens large, en incluant les mathématiques. On a eu la chance d'avoir un collègue qui a travaillé avec nous. Un projet aussi avec une collègue de lettres, de PS, et la collègue documentaliste. Et en fait, on a des élèves en début de cinquième qui commençaient à décrocher, qu'on voyait décrocher, vraiment ne pas s'intéresser à leur quotidien de scolaire, quoi. Et au fur et à mesure de l'année, parce que c'était un projet extrêmement exigeant pour nous et pour eux, et parce qu'il y avait de l'enjeu, il y avait ces scientifiques qui étaient en attente, qui attendaient des réponses, puisqu'ils leur avaient donné une mission en début d'année, ils venaient à la fin de l'année ils sont venus plusieurs fois dans l'année, et à la fin de l'année, on leur a présenté nos résultats. Et j'ai effectivement des élèves qui ont raccroché sur ce projet-là, qui se sont intéressés, alors qu'ils se couchaient de plus en plus tôt, qui arrivaient de moins en moins fatigués, et même un élève qui était vraiment en décrochage en octobre, qui en juin a vraiment demandé à faire la plénière devant tous les parents et les deux scientifiques, et c'était vraiment très beau à voir. Donc concrètement,
est-ce que c'était d'après vous le fait d'avoir fixé un objectif sur la longueur qui a permis cette prise de conscience chez certains élèves, ou bien est-ce que ça participait aussi donc de cette mise en place d'interdisciplinarité, c'est-à-dire de voir aussi des enseignants travailler ensemble et peut-être du coup donner une approche un peu plus concrète de l'intérêt de l'enseignement?
Et ça donnait plus de sens, et puis surtout, comme on travaille ensemble, du coup, on doit se mettre d'accord en tant que prof. C'est-à-dire que d'un seul coup, un truc tout bête, on doit travailler sur les graphiques, que ce soit en mathématiques ou dans toutes les disciplines scientifiques. Du coup, on s'est mis d'accord avec les collègues sur comment on fait un graphique, qu'est-ce qui est attendu par un élève. Et d'un seul coup, sur cet objet-là, c'était clair pour tout le monde.
En tout cas, donc vous, dans votre classe, vous avez constaté qu'il y avait un mieux, Céline Valkoviak, si on élargit peut-être un petit peu plus à vos observations. Est-ce que c'est le Graal, l'interdisciplinarité en matière de réussite scolaire?
Ce que je pense, c'est que le collège va assez mal et met les élèves les plus fragiles en difficulté, parce que je crois que le cloisonnement disciplinaire, c'est quand même une difficulté pour les élèves les plus fragiles. L'école est très implicite, c'est-à-dire que finalement, dans la complexité des choses, il y a des liens à faire. Les bons élèves y parviennent. Un élève fragile, il n'arrive pas à faire du lien entre les savoirs.
Un élève fragile, il peut aussi avoir peut-être besoin d'un cadre un peu clair, et les disciplines cloisonnées,
oui,
ça offre ce cadre aussi.
Mais là, on parle bien de 20% du temps de pratique interdisciplinaire, pas de 100%. Et moi, ce que je vois, c'est que, par exemple, si je prends l'exemple de l'histoire des arts, c'est quand même des pratiques interdisciplinaires. Là, on commence à avoir un peu de recul. On se rend compte que donc les élèves ont une problématique normalement qui est interdisciplinaire, et ils sont censés faire des liens entre des œuvres qu'ils ont vues dans différentes disciplines. C'est extrêmement difficile pour un collégien de faire ça. Ça demande une conceptualisation, une problématisation. D'ailleurs, ce sont des compétences quand même attendues pour le lycée, hein, aussi. Donc, on est en train de former aussi un profil d'élèves. Ils n'arrivent pas à le faire tout seuls. Donc, ces heures interdisciplinaires, par exemple, elles me semblent indispensable pour aider ses élèves à faire ces croisements.
Roland Hubert, vos collègues du SNALC, c'est un autre syndicat d'enseignants, sont pas très fans, a priori, de l'enseignement interdisciplinaire. Ils disent, vouloir prendre des heures sur les enseignements disciplinaires pour mettre en place des enseignements transdisciplinaires sur des thèmes très flous comme l'éducation et le développement durable va nous amener des élèves encore moins bien formés. En termes de réussite pédagogique, qu'est-ce que vous pensez, vous, au SNES, de tout ça.
Ce sont des formulations un peu définitives. L'interdisciplinarité, ça existe au lycée. Hein. Il y a deux formes d'interdisciplinarité au lycée. Dans la voie générale, on fait l'interdisciplinarité, ça s'appelle les TPE. On a identifié des heures et justement, ces heures ont été installées en diminuant les horaires des disciplines. Les élèves travaillent pendant un semestre, deux heures par semaine, sur un projet interdisciplinaire qui mène en groupe. Dans les séries technologiques, elle a été installée de façon différente. Elle a été installée dans les séries médico-sociales, par exemple, en identifiant cinq disciplines. Et ces cinq disciplines consacrent trois fois une semaine dans l'année scolaire pour mener le projet interdisciplinaire que les élèves ont choisi. Dans un cas, c'est un travail régulier toutes les deux heures, qui n'est pas clairement identifié par rapport aux disciplines. Dans l'autre, c'est un travail interdisciplinaire qui est mené sur des périodes plus longues, sur des temps plus longs, mais séparés trois fois seulement dans l'année. Moi, je pratique la deuxième parce que je travaille dans les séries technologiques. Je trouve que c'est une formule qui a beaucoup d'avantages. Parce qu'elle relie directement ce travail interdisciplinaire avec l'enseignant de sa discipline. Et l'aller-retour entre les élèves, leur travail, le groupe, la discipline, vous parliez par exemple des graphiques, dès qu'ils font un travail interdisciplinaire et qu'ils veulent mettre en forme et expliquer quelque chose avec des informations chiffrées, ils sont obligés de faire un graphique. Et bien, ce qui est dans le cours sur les graphiques, qui d'habitude les ennuient profondément, c'est vrai, là quand ils sont obligés de le faire et qu'ils ont l'enjeu de devoir l'expliquer, de devoir le justifier, il rentre dans une dynamique différente.
Parce que je retiens quand même que le SNES est très favorable finalement, par rapport à peut-être ce que j'imaginais à l'interdisciplinarité, à ce que j'imaginais aussi par rapport à votre communiqué de presse d'hier, disant voilà, cette réforme du collège est un grand retour vers le passé. Pour remarquer, il y a peut-être des choses intéressantes à prendre dans le passé.
Oui, non, mais ce qui nous a énervé vraiment prodigieusement, c'est le constat qui est fait. J'ai eu l'impression de relire des phrases entières de rapports précédant les débats sur la loi de 2005 et qui sont à la fois stigmatisantes et font d'une généralité quelque chose qui n'est pas généralement vrai.
La loi de 2005 qui mettait en place le socle commun, qui est assez cohérent justement avec la notion d'interdisciplinarité.
Pas plus que des programmes. Si le CSP arrive à relever le défi qui lui a été donné de construire les disciplines en cohérence, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je voudrais simplement dire, s'il me reste quelques instants, c'est par rapport à l'expérience qui était décrite tout à l'heure, ce qui me paraît fondamental par rapport aux élèves pour les mettre en activité et les sortir de l'ennui, vous l'avez un peu dit, c'est à un moment, ils sont face à un défi. Et je crois que l'éducation, c'est faire le pari que tous les jeunes sont en capacité d'accepter et de vouloir relever un défi intellectuel. Et ça les met dans une situation différente que quand on fait un enseignement où cette notion de défi n'existe pas. Et le deuxième, c'est le sens que ça donne, quoi. Voilà, c'est tout.
L'interdisciplinarité, elle est à un stade pour l'instant expérimental, même si ça peut être assez étendu, Céline Valkoviak, en France. Est-ce qu'on a des exemples à l'étranger, alors je ne sais pas si vous les connaissez, mais qui en tout cas pourraient témoigner d'une meilleure réussite des élèves lorsqu'il y a cette approche-là qui est mise en place?
Dans le numéro des cahiers pédagogiques là, qui va paraître, on a de l'étranger, on a eu une expérience en Suisse, de Genève. On n'a pas eu grand-chose quand même dans le cahier de l'étranger. Donc je ne sais pas là-dessus, je ne peux pas trop répondre. Ce que je peux juste dire quand même, c'est que les disciplines, certains regroupements de disciplines sont même typiquement français. Mmh. Par exemple, l'histoire-géographie en Italie, c'est de l'histoire, la philosophie. Mmh. Donc on peut se dire quand même que les matières scolaires, finalement, sont aussi des traductions des disciplines universitaires et qu'il y a des spécificités françaises qui seraient intéressantes à interroger parce que ce n'est pas partout pareil.
C'est historique.
Et oui, effectivement, chaque système éducatif repose sur une histoire bien, bien singulière. Alors, par rapport toujours aux élèves et à cette notion d'interdisciplinarité, moi, il y a peut-être une réserve qui me semblait pouvoir être examinée avec vous trois. C'est quand on dit, l'interdisciplinarité, ça permet, en tout cas, c'est comme ça que c'est présenté par le ministère, d'avoir une approche moins abstraite des enseignements, donc plus concrète, c'est-à-dire de comprendre que, par exemple, quand on fait des maths, ça va nous servir dans la vie de tous les jours. Est-ce que ça n'est pas, Fatima Haramoun, une façon de dire que l'école doit être quelque chose d'utile pour après, et donc de cette approche interdisciplinaire, que ce ne serait pas un peu une façon de dire, voilà, l'école est là pour former avant tout de main-d'œuvre, en tout cas des jeunes qui seront facilement employables sur le marché de l'emploi. Et d'ailleurs, pourquoi pas ?
Alors moi, ce n'est pas du tout ma vision des choses. Je pense que pour moi, quand on fait du projet interdisciplinaire, ou quand on travaille différemment, moi, je pars du principe qu'on peut apprendre en faisant. Et que c'est une façon de travailler. Mmh. C'est-à-dire qu'on est quand même beaucoup au collège sur un fonctionnement qui est celui du petit lycée général, en plus, général et pas professionnel ou technologique. Et du coup, on apprend souvent parce qu'on nous explique des choses et c'est très très bien. Mais tous les élèves n'apprennent pas de cette manière-là. Et moi, c'est plus ça que je vois pas ce danger-là. Moi, je pense qu'on sait bien quand on peut apprendre en faisant.
Roland Hubert, vous le voyez pas non plus ce danger ?
C'est-à-dire qu'on le voyait, on l'avait dénoncé très clairement dans le socle de 2005, où c'était quand même une réduction des attentes qui étaient très, très, très fortes.
Parce qu'on peut aussi se dire que peut-être que dans certaines disciplines, s'il y a quelque chose qui ne peut pas être rendu concret et utile, eh ben on va le supprimer.
Oui. Alors la question de concret et d'abstrait, elle est un peu compliquée, parce que sur la connaissance, le niveau de maîtrise qu'on peut avoir d'une discipline, peut-être pas trop la même définition du concret et de l'abstrait. Non, ce que vous avez dit tout à l'heure en entrée, c'est sortir de l'abstraction de certaines disciplines. Je ne suis pas en accord avec cette formule. Je pense que l'idée, c'est d'amener les élèves à rentrer dans cette abstraction. Alors le problème, c'est pour un certain nombre d'élèves, cette entrée est assez naturelle. Et puis pour d'autres, elle est beaucoup moins naturelle. Et donc, chercher des pratiques pédagogiques, des activités qui leur permettent de rentrer dans l'abstraction, c'est quelque chose de fondamental. Parce que on peut pas, pour un certain nombre de problèmes, même quand on traite de philosophie, de problèmes humains, des questions sociales, on a besoin de cette abstraction. Donc la question, c'est comment les faire entrer. C'est un peu ce que je pense que ce que vous vouliez dire, qu'on est d'accord. Alors, ça peut être immédiat, ou alors il y a des chemins détournés. Certains ont besoin de toucher, je dirais, d'une certaine façon, des réalités. D'autres ont moins besoin de ce passage.
Donc, il faut que cette diversité... Donc la pédagogie doit s'adapter aux élèves.
Voilà, il faut que la diversité des pratiques soit à l'œuvre. Et c'est pour ça que je disais que l'interdisciplinarité n'est pas forcément le seul outil pour cela.
Alors revenons aux enseignants et restons sur l'interdisciplinarité qui n'est qu'un outil parmi d'autres, mais enfin c'est notre sujet de ce soir. En préparant l'émission, alors on a vu ou lu un certain nombre de reportages un petit peu imagés, comme celui qu'on a passé en début d'émission, où à chaque fois on a l'impression que les enseignants qui pratiquent l'interdisciplinarité sont systématiquement plus heureux, plus épanouis que les autres. Et moi je me disais, Céline Valkoviak, puisque les enseignants ont aussi une certaine déjà liberté d'adapter leur méthode pédagogique, si c'était si bien que ça, pourquoi est-ce que tous les profs n'en feraient pas aujourd'hui ?
Parce que je pense que ça demande de penser autrement la didactique de sa discipline, d'une part. Et ça demande d'autre part un travail en équipe et une culture pédagogique d'établissement qui n'existe pas vraiment. Pour pouvoir travailler...
Le prof est un solitaire qui a du mal à travailler en équipe.
Je pense, oui, tout à fait. Vous n'avez qu'à demander aux enseignants, par exemple, d'art plastique ou de musique, qui souvent peuvent être seuls dans un établissement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément de collègues d'une même discipline, et ils vont vous dire qu'ils se sentent très seuls. Donc nous, par exemple, pour avoir travaillé en interdisciplinarité, on a beaucoup plus focalisé sur les équipes classes que sur, par exemple, les groupes disciplinaires. C'est-à-dire que moi, je me retrouve à travailler beaucoup plus avec mes collègues des autres disciplines qu'avec finalement les collègues de ma propre discipline. Et finalement, c'est l'élève qui est interdisciplinaire, lui. L'élève, il est plus intéressant pour lui que je travaille avec les collègues des autres disciplines qu'avec mes collègues de français, puisque de toute façon, par définition, s'il m'a moi, il n'a pas les autres. Ce collectif-là, créer ce collectif dans les établissements, premièrement, c'est pas évident. Et deuxièmement, je pense vraiment qu'il y a la nécessité il y a une interdidactique à inventer. Moi, je pense que... C'est-à-dire que je vois... Ce que je vois, moi, et ce qu'on lit dans les cahiers pédagogiques, c'est une grande ingéniosité des enseignants sur le terrain quand ils pratiquent l'interdisciplinarité. Mais ensuite, il y a toute une réflexion à avoir sur sa discipline et le croisement des disciplines. Alors pour revenir par exemple au travail d'équipe, juste un travail tout simple, dans notre établissement, à chaque fin d'année, donc début juillet, les derniers jours, là, quand on n'a plus trop d'élèves, on a un conseil d'enseignement interdisciplinaire et chaque enseignant vient avec sa progression annuelle de l'année suivante. Et c'est-à-dire qu'il y a vraiment une transparence dans les pratiques des uns et des autres. Et c'est à partir de cette transparence qu'on va réussir à pouvoir monter des projets interdisciplinaires.
Ah, mais ça suppose que justement les enseignants acceptent que l'on observe leur travail
aussi,
de près.
Oui, ça accepte ça veut dire accepter de travailler dans un collectif.
Ça veut dire que ça ne peut de toute manière passer que sur la base du volontariat, Fatima Ramoun et Roland Hubert.
Allez-y.
En fait, je pense que pas enfin, je pense que le fait de l'inclure dans les emplois du temps et que ça soit une sorte d'obligation, ça peut aussi permettre à certains collègues de s'y mettre. Alors après, il faut que ça soit fait intelligemment, il faut que on ne doit pas forcer les collègues à faire des choses qui ne pensent pas être importantes, mais
c'est vrai qu'il y a nécessité de les pousser un petit peu, quoi.
Mais ce qu'il y a, c'est que c'est effectivement, quand on fait de l'interdisciplinaire, moi j'ai trouvé ça formidable et j'ai adoré et ça m'a fait. Parce que j'avais envie de travailler en équipe, effectivement, mais ça, on se met un peu en danger. Alors, pas en danger, mais on sort de sa classe, on s'ouvre aux autres et c'est pas forcément confortable parce qu'on doit un petit peu pousser au-delà de ce qu'on maîtrise. Alors, pas forcément. À un moment donné, la collègue dans le reportage parlait de dépasser sa matière. Je pense pas qu'on soit obligé de dépasser sa matière. Non. Là-dessus, c'est j'étais pas forcément pas d'accord. Parce que l'interdisciplinaire, c'est pas parce que je travaille avec un collègue de mathématiques.
Je fais ma discipline. Non,
voilà. Mais par contre, ça oblige à dialoguer et à se déplacer un peu. Et c'est pas évident, c'est pas confortable.
Avoir un cadre un peu plus formel et avec peut-être davantage d'obligations à mettre en place cette interdisciplinarité. Vous en pensez quoi, vous, Roland Hubert ?
Vous savez, les obligations dans l'éducation nationale, si elles ne sont pas accompagnées, elles produisent rarement des résultats.
Accompagnées de quoi ?
Accompagnées, je veux dire en termes de formation, ça a été soulevé. Il y a toute une culture à travailler dans le cadre de la formation des enseignants de sa discipline. Un enseignant, ce n'est pas simplement quelqu'un qui a une spécialité, qui est spécialisé dans sa discipline. Il doit avoir eu des éléments de didactique, d'épistémologie, d'histoire de sa discipline, de rapport avec les autres. Si vous faites des mathématiques et que vous n'avez jamais réfléchi à l'histoire des mathématiques et les liens entre mathématiques et histoire de la pensée, vous n'êtes pas en capacité de pouvoir rentrer dans ce type de démarche. Donc là, aujourd'hui, la formation sur ces questions-là, elle n'existe pas ou elle existe très peu. Imposer de cette façon-là, ça ne fonctionnera pas, on le sait très bien. Donc ce qu'il faut, c'est mettre les collègues en confiance, leur montrer que ce qu'ils peuvent faire dans un cadre qui peut leur être ouvert dans le cadre de leur discipline, et que ce n'est pas une remise en cause de leur discipline, mais que c'est bien un cadre qu'on leur offre pour faire des choses de façon différente et pour enseigner de façon différente et susciter l'envie d'apprendre.
Alors ce n'est pas une remise en cause de leur discipline. Il y a un terme qu'on n'a pas encore utilisé ce soir, on est déjà presque à la fin de l'émission, ça passe très vite, c'est le terme de bivalence, c'est-à-dire le fait d'avoir un enseignant qui peut enseigner deux disciplines différentes. Oui, mais en même temps, ça n'a rien à voir, vous dites Roland Hubert, mais je dis, si un enseignant accepte le principe de l'interdisciplinarité, c'est-à-dire le fait de travailler sur un projet commun, est-ce qu'il va pouvoir refuser derrière le principe de la bivalence? C'est-à-dire que on peut se dire, un projet commun qui convoque, les mathématiques et la physique, pourquoi est-ce que ça ne serait pas finalement le même enseignant qui pourrait gérer ces deux disciplines?
Il me semble que ça n'a pas grand-chose à voir, parce que la question de la bivalence, c'est la question de la formation à une discipline. À partir du moment où ce que j'ai essayé d'expliquer sur on pourrait appeler les incontournables de la formation, la question c'est, est-ce qu'on peut avoir tous ces incontournables dans deux disciplines? Moi, ça, si c'est possible, ça ne me dérange pas. Mais la question, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
Vous avez en face de vous une enseignante qui a enseigné la physique, la chimie, les SVT et la technologie.
Oui,
Ramoun.
Tout à fait. Justement,
ça n'a rien à voir ou ça a quelque chose à voir quand même?
Alors, pour moi, la polyvalence n'est pas l'interdisciplinarité. C'est pour le coup, c'est pas parce qu'on fait un projet interdisciplinaire qu'on va devenir polyvalent. Je vais parler du rapport qui a été fait sur le IST, sur son évaluation.
IST, je rappelle juste, enseignement intégré des sciences et technologies.
Tout à fait. L'équivalent de la main à la pâte en 6e et 5e. Ouais. Hein. Souvent, on connaît mieux les expérimentations primaires.
Voilà, l'association qu'on a déjà reçue dans cette émission.
Dans ce rapport, on explique que les enseignants qui font de l'enseignement intégré ne deviennent pas polyvalents, sauf s'ils s'investissent énormément et souhaitent finalement vraiment le devenir, quoi. C'est pas parce qu'on fait l'enseignement intégré qu'on devient polyvalent et qu'on maîtrise. Voilà. Après, effectivement.
Mais si on a envie de le devenir, il faut pas qu'on nous l'interdise. C'est ce que vous dites ?
C'est ce que je dis, oui, effectivement. Moi, ce que j'attends, en fait, c'est qu'on puisse avoir créé des possibles. Parce que souvent, au collège, moi, j'ai eu l'impression, on m'a souvent dit, c'est pas possible, on peut pas faire, c'est compliqué, faut changer ceci, faut changer cela. Et moi, je crois vraiment au collège et au fait qu'il doit être réorganisé pour permettre aux enseignants de faire des choses et de s'en sentir dans du possible.
Bon, donc, je reste encore sur mon lien, hein, Roland Hubert. Après, je vais revenir vers vous, Céline Alcoviac. Mais si l'interdisciplinarité suscite des vocations et un prof de maths se rend compte que le français, c'est aussi... son dada et qu'il a envie d'aller vers cette polyvalence, pourquoi pas ? Est-ce que le collège, en tout cas, doit permettre cette liberté-là ?
Mais s'il a une formation dans la discipline qui est équivalente à celle qu'il a dans sa discipline d'origine, ça ne me pose pas problème. La question, c'est à un moment de savoir s'il va réussir à mener les deux de front, etc. Problème, moi, je suis enseignant en mathématiques, j'ai fait beaucoup de physique. J'avoue que la didactique de la physique, pour moi, n'est pas la même que celle des mathématiques et que je ne la domine pas. Donc si on me demande de travailler avec un enseignant de physique, je vais travailler avec lui, je vais apprendre de lui, comme j'espère il apprendra de moi dans le travail commun, ça aidera peut-être les élèves, mais je ne me sens pas en capacité d'enseigner la physique, sauf à prendre le temps de me former à la physique. Donc à ce moment-là, quel est l'intérêt ? Il est autant former deux enseignants et les apprendre à travailler ensemble. Alors après que certains, parce qu'ils ont cette formation, parce qu'ils ont... Pourquoi pas ? D'une certaine façon, un prof d'histoire-géographie, il a normalement formation à l'histoire et formation à la didactique de la géographie, qui sont deux disciplines qui n'ont pas forcément la même didactique non plus.
Céline Alcoviac, même si, donc on a bien compris que l'interdisciplinarité et la polyvalence, ça n'est pas la même chose, est-ce que, en tout cas, c'est une crainte qui s'exprime chez les enseignants que si on nous demande de faire de l'interdisciplinarité, c'est parce que l'étape suivante, ça sera peut-être celle de la polyvalence ?
Mais... En fait, je ne l'ai jamais vraiment entendu formuler comme ça. Et je ne sais pas, quand je travaille en interdisciplinarité, moi, je ne fais vraiment rien d'autre que du français et de la littérature. Et je crois bien que je ne suis pas fichue de faire autre chose, hein, d'ailleurs. Donc, par contre, je crois qu'il ne faut vraiment pas du tout le voir comme ça. Et moi, je n'ai pas entendu ces craintes-là chez les enseignants.
Sur l'UST, si.
Alors, peut-être sur l'UST, mais en tout cas, dans le pôle humaniste, hein, auquel j'appartiens, absolument pas. Par contre, ce qui me marque vraiment, vous voyez, ce matin, j'étais en projet interdisciplinaire avec des sixièmes sur un projet de théâtre d'ombre, avec l'enseignant d'art plastique et l'enseignant d'éducation musicale, hein, où les élèves ont créé un conte, on fait des marionnettes, on travaille avec l'ombre et l'ont mis en musique. Et je me dis qu'on a vraiment, là, le croisement de trois disciplines, de trois expertises, qui me semblent hausser le niveau des apprentissages. C'est évident. C'est-à-dire que toute seule, j'aurais peut-être pu faire du théâtre d'ombre. Hein. Après tout, ça pourrait rentrer dans le cadre de ma discipline, mais je l'aurais fait beaucoup moins bien toute seule.
Les parents, puisqu'on n'a pas parlé des parents encore et on n'a plus qu'une minute, ils sont toujours enthousiastes, Céline Alcoviac ? Ou est-ce que là, il y a aussi un frein, c'est-à-dire une forme de conservatisme de la communauté des parents d'élèves, disant « Non, nous, on veut que le prof de maths, il ne fasse que des maths, le prof de français, que du français, et chacun dans son coin. »
Dans mon établissement, ça n'a jamais posé problème. On est même allé jusqu'à faire des réunions parents-professeurs interdisciplinaires, c'est-à-dire qu'en fait, on recevait les parents d'élèves, un représentant du pôle scientifique, un représentant du pôle humaniste, un représentant du pôle linguistique et de la vie scolaire, pour remettre le bulletin. Et les parents aimaient beaucoup. Et on avait fait ça pour avoir une globalité sur le travail de l'élève.
Fatima Ramon, je n'ai pas eu le temps de vous interroger sur un projet de collège alternatif, c'est ça que vous êtes en...
Oui, tout à fait, parce que
en quelques secondes,
on est un certain nombre de professeurs à réfléchir, notamment sur Paris, mais pas que sur Paris, mais moi je fais partie du groupe de Paris. On souhaite ouvrir un collège coopératif à Paris, donc basé sur la coopération et sur effectivement l'interdisciplinarité, le croisement des disciplines.
Coopération, ça veut dire quoi ? C'est les élèves qui font cours en même temps que les profs ?
Non, la coopération, c'est justement l'idée de travailler ensemble, de travailler en groupe, de s'entraider, mais une coopération qui ne soit pas qu'au niveau des élèves, qui soit aussi entre les profs et les élèves et aussi entre les professeurs, puisqu'on n'a pas du tout justement cette culture du travail en équipe dans ce métier, et c'est bien dommage.
C'est un projet qui sera sans doute très intéressant de suivre. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Roland Hubert, Céline Alcoviac et Fatima Ramoun, émission que vous pouvez commenter sur notre site franceculture.fr, la page du Grain à Moudre. L'émission, vous pouvez la réécouter pendant 1000 jours. Il y aura peut-être un nouveau ministre de l'éducation d'ici là. Et podcaster pendant un an. On se retrouve lundi à 18h20 pour poser la question suivante. Ce sera l'occasion du débat à l'Assemblée nationale sur la biodiversité. A-t-on les moyens de protéger toutes les espèces ?